Docteur Paul Cresson-Bininga, bonjour.
Bonjour.
Trois agents travaillant pour le compte de l'Agence des Nations Unies, UNOPS, sont pris en otage dans la Vakaga. Trois semaines passées, ils ne sont toujours pas relâchés. Vous dites que les autorités doivent tout faire pour les libérer. Comment ?
Je pense que c'est une situation dramatique. Cette situation, il faut la nommer. Et quand je dis qu'il faut nommer cette situation, c'est qu'il faut identifier les vrais responsables. Nous avons une manière dans ce pays qui est celle de trouver des palliatifs et de ne pas nommer les choses. Or, dans le cas de ces compatriotes qui ont été pris en otage dans la Vakaga, nous connaissons les responsables. Certains responsables sont membres du gouvernement. Ce groupe armé qui a mis la main sur ces trois personnes, ces groupes armés obéissent à des ordres. Et ceux qui donnent ces ordres-là sont dans le gouvernement, sont des ministres dans le gouvernement, sont en grande partie des ministres ressortissants de la Vakaga. Il ne faut pas se voiler le visage. Le diagnostic a été mal fait. Je crois que le président de la République a été induit en erreur parce que dans son discours, il semble prendre pour responsables les forces politiques de l'opposition. Mais la réalité, ce n'est pas celle-là. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont.
Vous voulez que le gouvernement centrafricain passe à la vitesse supérieure, lancer peut-être des poursuites contre les membres de son gouvernement qui seraient impliqués dans l'enlèvement de ces trois personnes?
Ce sont des personnalités qui, depuis 2013, ont décidé de prendre la République en otage. Tout le monde le sait, mais personne ne veut en parler. C'est le drame dans ce pays. Il faut les interpeller et leur demander, de demander aussi à leurs hommes qui sont sur le terrain, de libérer simplement les trois personnes qui sont prises en otage. C'est de ça qu'il s'agit en réalité.
Il y a également un autre cas de kidnapping dans la Nana Mambéré où un ressortissant chinois est encore détenu par les rebelles de 3R à Yelewa. Êtes-vous inquiet de cette pratique?
Ces pratiques sont connues. Les auteurs sont connus. Seulement, on ne veut pas percer l'abcès. Qui sont ceux qui entretiennent l'insécurité dans la zone de Nana Mambéré, dans une partie de Wampende ou de Limpende? Qui sont les groupes armés qui entretiennent l'insécurité? C'est le mouvement 3R. Les responsables sont là. Il y a ceux qui jouent aux convertis aujourd'hui, qui estiment effectivement qu'ils n'appartiennent plus à ce mouvement, mais qui continuent de tirer les ficelles. À un moment donné, il faut qu'on soit serein et qu'on soit sérieux et qu'on prône l'impunité pour tout le monde. On n'a pas à accuser les gens qui ne sont pas en réalité les vrais responsables. Les vrais responsables sont connus. Aujourd'hui, dans la Nana Mambéré, ceux qui entretiennent les violences armées, ce sont les éléments du mouvement 3R. Qui sont ceux qui répondent des actes commis par le mouvement 3R? On les connaît.
Vous dites qu'on connaît ces gens. Est-ce que le GTSC peut se porter peut-être garant de citer nommément certaines personnes connues de ces mouvements?
Je donne à ces personnalités-là qui manipulent les groupes armés un délai d'une semaine. Passé ce délai, je viendrai évoquer leur nom, quitte à ce qu'elles puissent me traduire devant la justice et je vais verser les preuves. À un moment donné, il faut qu'on aime ce pays-là. On ne peut pas accepter qu'un groupuscule de personnes puisse prendre le pays en otage, prendre la gouvernance en otage parce que ces personnalités-là veulent défendre leur beefsteak. Je crois qu'on en a marre.
La question de l'insécurité également a été au cœur du colloque que vous avez organisé du 24 au 26 novembre à Bangui autour du thème « Les crises sociopolitiques en contexte de démocratisation en Afrique ». Quelle est l'importance de cette assise?
L'intérêt est de comprendre et d'expliquer les difficultés auxquelles les démocraties africaines sont confrontées. Tout simplement, nous avons accueilli des collègues venus du Tchad, du Bénin, du Cameroun, du Togo, du Congo et de bien d'autres pays. Nous avons également des chercheurs de la République centrafricaine et ça a été une messe scientifique assez intéressante, assez édifiante. Ça a permis effectivement de creuser davantage les différents axes qui ont constitué la matrice, je veux dire, nourricière de ce colloque-là.
L'une des thématiques débattues lors de ce colloque porte sur la question de prorogation des mandats présidentiels et législatifs qui sont en quelque sorte des facteurs de crise dans les pays africains. Est-ce une manière d'interpeller les autorités centrafricaines?
Ce n'est pas forcément une manière d'interpeller les autorités centrafricaines. C'est un fait, c'est un constat. Et partant de ce constat-là, nous avons eu des débats. Les collègues qui ont tenu des communications allant dans ce sens-là ont reçu beaucoup de questions. Il y a eu de très beaux échanges de ce point de vue-là. Mais nous faisons la science, nous créons. Nous n'avons pas organisé un colloque pour parler de la République centrafricaine. Nous avons organisé un colloque pour parler des crises sociopolitiques en contexte de démocratisation en Afrique.
Si on se tient un peu aux discussions qui ont eu lieu lors de ce colloque, la longévité au pouvoir est synonyme de déstabilisation des pays africains. Mais que pensez-vous en tant que chercheur des pays comme la Guinée équatoriale, le Cameroun ou encore le Congo où les présidents passaient plus de 20 ans au pouvoir, mais dans ton remarque, une certaine stabilité politique et sociale?
Je ne suis pas sûr que nous partageons les mêmes points de vue. Mais en fond de toile, votre question nous ramène sur la problématique de la révision ou de l'élaboration d'une nouvelle loi constitutionnelle. Et nombreux sont ceux qui m'interpellent, qui me posent la question, quel est mon avis là-dessus? Je crois que j'ai eu à plusieurs occasions donné mon avis sur la révision ou encore l'élaboration d'une nouvelle loi constitutionnelle. Je suis de ceux qui pensent, et peut-être de par ma formation de juriste et de sociopolitiste, qu'il ne peut pas avoir une révision de constitution ou l'élaboration d'une nouvelle loi constitutionnelle sans un consensus politique. Je ne suis pas pour l'élaboration d'une nouvelle loi constitutionnelle, je ne suis pas contre. Mais en tant que chercheur, si vous voulez mon avis, pour arriver à l'élaboration d'une nouvelle loi constitutionnelle, parce que toute loi est appelée à évoluer, toute loi est appelée à connaître une évolution. Partant de ce principe-là, on peut discuter de l'élaboration d'une nouvelle loi constitutionnelle. On peut discuter de la révision d'une constitution. Seulement, comme sociopolitiste, ce que je sais, c'est que lorsqu'on veut évoquer ces questions-là, il faut s'assurer qu'un minimum de consensus puisse être dégagé. Et quand je parle de consensus au plan social et au plan politique, c'est extrêmement important.
En 3 jours de débat, plusieurs thématiques ont été débattues. Alors dites-nous, est-ce que pendant ces 3 jours, vous avez eu à énumérer des recommandations à l'endroit des dirigeants africains?
Le colloque se fait du point de vue scientifique de manière désintéressée. Nous avons un objectif, c'est celui de comprendre et d'expliquer un phénomène que nous avons observé. Et ce phénomène a fait l'objet d'un consensus au sein de la communauté scientifique. C'est pourquoi il y avait un avis d'appel à contribution. Et donc, il y a un terme de référence qui a été rédigé, au sorti duquel il y a un certain nombre de canaux du point de vue méthodologique ont été définis. Le chercheur, lui, il produit des travaux. C'est aux politiques de prendre connaissance de ces travaux-là et de se dire que ce qui a été compris et expliqué nous permet d'administrer tel type de solution. Mais lorsque le chercheur décide de proposer des solutions, alors il passe de chercheur à consultant. Or, nous ne sommes pas des consultants dans ce cas de figure-là.
Docteur Paul Cresson-Bilinga, une dernière question avant de finir. Avant, on constatait des sorties immédiates de la part de GTSI quand il y avait des crises, quand il y avait des tueries dans l'arrêt pays. Mais ces derniers temps, nous constatons, excusez-moi le terme, une latence de la part du GTSI. Est-ce que vous êtes fatigué de sortir des notes à chaque fois ou bien?
Non, nous ne sommes pas fatigués. Le GTSC, c'est le groupe de travail de ce service sur les crises centrafricaines. Et généralement, l'impression qui se dégage est que quand il y a des situations qui concernent certaines organisations, on a tendance à porter un regard sur le GTSC. J'ai été à plusieurs reprises interpellé sur les questions des flambées de prix, des denrées alimentaires sur le marché. Je rappelle à juste titre que ça relève des prérogatives de l'association des consommateurs. Et donc, à partir de ce moment-là, le risque d'usurpation est là et nous ne voulons pas effectivement paraître comme cette organisation qui fait dans l'usurpation. Il y a un adage qui dit qu'il embrasse trop mal les trains, mais le GTSC continue de se prononcer sur les questions relatives à la crise sécuritaire, à la crise politique. Nous n'avons pas failli, nous sommes toujours présents et je pense que plus que jamais, au regard de l'actualité politique, la population attend beaucoup du GTSC et nous sommes conscients de cela.
Docteur Paul Cresson-Bilinga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.